Bonjour à vous tous. Je remercie Étienne parce qu'il m'a donné 3 mois pour préparer cette prédication. Gentil. Je crains un petit peu cette ancienne salle devenue nouvelle, toute belle. Je ne sais pas comment ma voix va porter, mais je ferai de mon mieux pour partager avec vous ce que j'ai sur le cœur. Ce que j'aime dans cette salle, c'est que nous n'avons plus la montre accrochée au mur. Cette montre que nous aimions tant regarder pendant les prédications. Mais je peux vous rassurer que si vous êtes sur l'estrade, l'heure est très bien affichée. On ne peut pas se tromper. Alors, les événements que nous lisons aujourd'hui se sont passés tout de suite après le règne de Salomon. Il y a tant de choses dans ce passage de 1 roi 13, il y a tant de surprises, et je ne peux pas dire que j'ai trouvé toutes les réponses à mes questions. Je cherche ma veste. Ne vous inquiétez pas, je ne quitte pas la salle. Pas encore. Je suis un peu inquiet. J'ai une journée bien difficile devant moi. Je dois me rendre à Bethel, à une 20 kilomètres au nord de Jérusalem. J'ai un message très important à transmettre à celui qui dirige le royaume du Nord. Oui, je le sais, c'est une triste affaire parce que nous étions le même peuple. Et même si ça ne va plus entre nous, nous sommes toujours le même peuple, issu de notre ancêtre Jacob. J'ai décidé de ne pas partir à pied. Je voudrais être de nouveau chez moi ce soir, dans mon lit, dormir dans mon lit. Je pense qu'en venant dans la salle, vous avez vu mon âne qui est attachée à l'entrée. Ça va aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup moins fatigant. Mais enfin, pour être honnête, je suis un peu inquiet. Aujourd'hui, le courage me manque un petit peu. Franchement, je me demande comment ça va se passer. Je suis conscient que ce voyage n'est pas sans danger. Si à la tombée de la nuit, vous ne me voyez pas, vous saurez que ça a mal tourné. Mais je n'y peux rien, c'est Dieu lui-même qui m'a chargé de cette mission. Aujourd'hui, le courage me manque un petit peu. Mais c'est Dieu qui m'a confié ce message que je dois transmettre au roi Jéroboam. Il s'agit d'une parole très sévère à son égard, une parole qui va le toucher de près. Je risque gros, mais j'ai décidé d'y aller, lui apporter ce message. Je veux obéir à tout prix, même si ça risque de me coûter cher. Lisons ensemble le début de ce texte. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Je m'arrête quelques instants parce que j'essaie de me projeter dans la vie de cet homme. Comme vous le savez, ce n'est pas facile de se mettre dans la peau de quelqu'un, d'essayer de vivre ce que la personne vit, ses sentiments, ses défis, ses inquiétudes. Il nous manque certainement quelques détails au début du texte. Il me semble que l'auteur était tellement pressé de nous raconter cette histoire qu'il a carrément oublié de nous dire certaines choses. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce qui se passe dans le cœur de cet homme quand il se met en route vers le nord? Il s'est sans doute levé tôt, il a sellé son âne et le voilà face à l'inconnu. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions qui traversent son esprit. Est-ce que le roi sera chez lui? Est-ce que ce sera possible d'entrer en contact avec cet homme si important? Est-ce que j'aurai la possibilité de lui parler, de lui transmettre ce message qui m'a été confié? Méditons ensemble cette histoire ce matin. Il y a des choses tout à fait étonnantes. Dieu est à l'œuvre et il nous surprend plus d'une fois dans ce chapitre. Je n'ai pas de thème en particulier à vous proposer ce matin. Je me suis fixé sur trois mots qui m'aident à me projeter dans ce passage. Et voilà, le premier mot est très simple, c'est le mot « courage ». Nous connaissons tous ce mot « courage ». Ces femmes, ces hommes de l'Ancien Testament, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. L'homme dont nous parlons aujourd'hui risquait gros. Il n'était pas stupide. Et pourtant, c'est comme s'il se jetait dans la gueule du lion. La suite de la lecture va nous le montrer. N'oublions pas que ces hommes et ces femmes qui ont osé parler de la part de Dieu ont parfois rencontré une forte opposition. Jésus, à la vue de la ville de Jérusalem, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, « Toi qui mets à mort les prophètes et qui tue à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie. » Les temps n'ont pas changé. Rester fidèle à Dieu, annoncer sa parole dans un monde parfois hostile, demande du courage. Ces paroles de Paul me traversent l'esprit. Paul dit, « J'ai appelé juifs et non-juifs à se convertir à Dieu » et à croire en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, je me rends à Jérusalem, comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. Et j'ignore ce qui m'arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et des souffrances m'attendent. Mais ma propre vie ne compte pas à mes yeux. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de la mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Combien de fois prions-nous pour nos pasteurs, pour les membres du conseil pastoral, ou pour ceux qui sont partis pour partager la bonne nouvelle dans des contextes bien différents des nôtres? Prions-nous pour qu'ils puissent être remplis de force et d'avoir le courage d'avancer, même quand les vents sont contraires. Mais n'oublions pas, ces hommes et ces femmes étaient tout à fait humains, comme nous. Je me dis que le courage devait aussi leur manquer parfois. Ils ne se sentaient pas toujours d'attaque. Ils se sentaient petits, terriblement conscients de leur faiblesse face à la tâche. Le message que Dieu nous confie n'est pas toujours reçu. Parfois, ce message est méprisé, rejeté. Mais la grâce de Dieu peut nous donner le courage d'avancer. Parfois, j'accompagne Martin, Valérie, Guy pour le stand. Et je dois dire que le courage n'est pas toujours au top. C'est un peu l'inconnu. Je dis, mais comment je vais m'y prendre avec les gens que je vais rencontrer? Comment je vais m'y prendre? Mais on y va. Parce qu'il faut que l'Église soit visible dans cette ville de Mulhouse. Nous avons quelque chose à apporter à tous ceux qui sont ici. Un message de vie, d'espérance. Mais il y a autre chose qui me frappe dans ce texte. Est-ce que vous l'avez remarqué? Quelque chose qui manque dans ce texte. L'auteur semble avoir oublié de nous donner le nom de ce prophète. Nous savons qu'il faisait partie du royaume du Sud, qui était resté fidèle à la maison de David, au vrai culte de l'Éternel. Mais nous ne connaissons pas son nom. On l'appelle juste prophète ou parfois homme de Dieu. Mais finalement, ce n'est pas si important de connaître son nom. C'est ça que je me dis. Après tout, nous ne sommes que de simples serviteurs. Pas grand-chose L'église de Corinthe avait ses héros. Certains disaient, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. Mais Paul nous rappelle que nous ne sommes que de simples serviteurs, rien de plus. C'est Dieu qui fait croître, qui accorde sa bénédiction à notre travail. Sans l'action de ton esprit, il n'y a pas de résultat durable. Nous sommes parfois tentés de nous mettre en avant, mais l'orgueil est un piège. Restons à notre place, fidèles même dans les petites choses que Dieu nous a confiées. Exerçons les dons que Dieu nous a donnés. Faisons tout pour faire avancer le royaume de Dieu. Le reste, Dieu s'en occupe. Et si nous avons la joie de voir de belles choses dans notre Église, il faut nous rappeler que c'est Dieu qui fait croître, qui accorde sa bénédiction. Continuons notre lecture. Or, un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. « Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David. Il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera les prêtres des lieux sacrés. Là où ceux-ci faisaient auparavant brûler les sacrifices, sur toi on brûlera même des ossements humains. » Et le prophète annonce encore ceci, « L'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui a parlé. » Il y a des moments dans la vie où, malgré nos craintes, nos hésitations, nous nous rendons compte que Dieu nous a déjà devancés sur le chemin et que le timing est parfait. Je pense que vous l'avez déjà constaté. C'est encore une chose qui me frappe dans cette histoire. Cet homme se met en route sans qu'il le sache. Dieu a déjà préparé le terrain. Dieu peut mettre les bonnes personnes à la bonne place, au bon moment. Et l'homme de Dieu arrive à Bethel pile au moment où le roi lui-même se trouve devant l'autel pour faire des sacrifices. C'est incroyable. On ne pouvait espérer mieux. Et c'est à ce moment que nous rencontrons le roi Jéroboam. Pour comprendre qui est cet homme, il faudrait retourner quelques chapitres en arrière pour voir ce qui s'est passé avant et après la mort de Salomon. 1 Roi 11, verset 26. Jéroboam entre en scène. Salomon était en train d'aménager les abords du palais, je pense, faire des cultures en terrasse. Et il a remarqué un jeune homme de valeur, un jeune homme énergique, capable. Et il a été tellement impressionné qu'il a confié à ce jeune homme à la surveillance de tous les ouvriers de la tribu de Joseph. Et voilà, un jour, Jéroboam, il est sorti de la ville et il a croisé le prophète Ahia. Ils étaient tous deux seuls et Ahia a pris son manteau neuf qu'il avait sur les épaules, et il a déchiré en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, « Prends 10 de ces morceaux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je suis en train d'arracher le royaume à Salomon, et je te confierai 10 tribus. » Tout cela, nous le savons, est arrivé à cause de l'infidélité d'Israël, de Salomon, parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu et ils se sont adonnés au culte des idoles. J'ai gardé quelque part ce feuillet du calendrier 2018, le titre « L'homme qui a tiré le gros lot ». C'est le plus gros lot de l'histoire. L'héritage du roi Salomon était fabuleux au-delà de toute imagination. Et Jéroboam en reçoit 10/12. Il n'aurait pu rêver mieux. Il suffisait d'attendre. Il n'avait besoin de rien faire. Quand Dieu donne, il le fait sans compter. La chance? Non. Ce n'est pas le hasard qui gouverne le monde, c'est Dieu souverain. Le Dieu souverain conduit la barque de l'histoire. Il explique à Jéroboam pourquoi cet héritage lui est échu, afin qu'il ne répète pas les erreurs de Salomon. Et surtout qu'il apprenne à ne pas oublier Dieu pour se perdre à son tour. Dieu pose les conditions, certes, mais notez combien la promesse est énorme. Et ce qui s'est passé avec ce prophète, Aïa, est parvenu aux oreilles de Salomon. Et Salomon a cherché à faire mourir Jéroboam, qui a dû prendre la fuite, aller en Égypte. Le temps nous manque pour entrer dans tous les détails, mais cette parole trouve son accomplissement tout de suite après la mort de Salomon. Les tribus du Nord se révoltent parce que le joug que Salomon avait imposé était devenu trop lourd, insupportable. Et alors, Jéroboam est revenu d'Égypte et il a été proclamé roi de ce nouveau royaume, le royaume du Nord. Mais qu'est-ce que Jéroboam a fait? Au lieu de s'appuyer sur les promesses que Dieu lui avait données, il a pris toute une série de mesures pour s'assurer que les 10 tribus du Nord lui restent fidèles. Il ne voulait plus que les Israélites se déplacent au temple à Jérusalem pour adorer Dieu, de peur qu'ils perdent le contrôle et que le peuple s'attache de nouveau au fils de Salomon. Jéroboam a fabriqué 2 veaux d'or. L'un est installé à Bethel au sud et l'autre au nord à Dan. Et il dit au peuple, « En voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Tout ça, on est fatigué de tout cela. » Devant ces veaux, Jéroboam, il dit, « Voici votre Dieu, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. » Et il a désigné comme prêtre des gens du peuple qui ne faisaient pas partie de la tribu de Lévi. Et lui-même présentait des sacrifices sur l'autel, tout le contraire de ce que Dieu avait ordonné par Moïse. Pourtant, Jéroboam avait bel et bien été averti. On ne pouvait pas dire le contraire. Un ami que je connaissais, on a perdu le contact. Il avait tant souffert dans sa jeunesse à cause de son père. Tout cela l'avait beaucoup marqué. Mais quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout ce qu'il avait souffert lui-même, il a imité le comportement de son père. Pas tellement logique, mais c'est comme ça. C'est triste, c'est comme si nous n'apprenions pas grand-chose du passé. Nous répétons les mêmes erreurs que ceux et celles qui nous ont précédés. C'était le cas de Jéroboam. Il y a des personnes qui démarrent bien dans la vie, qui sont aujourd'hui très engagées dans leur foi. Elles ont tout pour réussir comme Jéroboam. Mais les pièges sont nombreux. L'important, ce n'est pas seulement de partir, c'est aussi d'arriver à destination, à bon port. La parole nous dit, par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Vous êtes jeune ou peut-être moins jeune. La vie s'ouvre devant vous. Vous avez comme Jéroboam tout entre vos mains pour réussir. Mais il ne faut pas laisser les belles choses de la vie prendre le dessus et vous écarter de celui qui est la source de vie et de bonheur. Revenons au chapitre 13, à cet homme qui parle contre l'autel. Avec courage, il annonce des choses terribles qui vont arriver. Et l'autel va se fendre, un signe pour montrer que c'est bien l'Éternel qui a parlé. La lecture encore, versets 4, 5. Lorsque le roi Jéroboam entendit la menace que l'homme de Dieu proférait contre l'autel de Bethel, il étendit la main par-dessus l'autel et cria à ses gardes, « Arrêtez-le !» Mais la main que Jéroboam avait étendue contre le prophète devint paralysée, de sorte qu'il ne put plus la ramener à lui. Au même moment, l'autel se fendit et la graisse qui était dessus se répandit par terre. C'était exactement le signe que l'homme de Dieu avait annoncé. Jéroboam crie « Arrêtez-le !» Mais sa main se fige, paralysée. Et l'autel se fend et la graisse, la partie du sacrifice qui a été réservée à Dieu, se répand par terre. Une démonstration frappante que ce sacrifice était inutile, inefficace, refusé par Dieu. Le deuxième mot que je vais vous laisser aujourd'hui, c'est le mot « combat ». Ce mot m'est venu lors de la magnifique soirée que nous avons eue sur Rescapé. Parce que la tenue de ces spectacles est aussi un vrai combat pour les participants. Un matin, je me suis levé et je me suis mis dans mon fauteuil pour passer un petit moment de lecture avec la parole de Dieu. Et cette pensée m'est venue à l'esprit. Dis-le, pourquoi est-ce que tu penses que la vie doit toujours être facile? Que tout le monde doit être gentil avec toi? Que tout doit se dérouler sans épreuve, sans difficulté? Oh mon gars, tu te trompes. Lève-toi et sois prêt à combattre dans cette journée que le Seigneur te donne. Pour le prophète, l'annonce de ce message risquait de lui coûter cher. Se mettre au service de Dieu, c'est s'engager dans un combat pour la vérité. Et l'opposition n'est jamais, jamais loin. Mais quel avertissement pour ce roi Jéroboam! Dieu lui parle encore. Il lui donne la possibilité de faire demi-tour, de revenir sur la bonne voie. On va continuer la lecture. Alors le roi dit à l'homme de Dieu, « Je t'en prie, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse ramener ma main à moi. » Le prophète implora l'Éternel et le roi put ramener sa main à lui comme auparavant. Alors le roi invita l'homme de Dieu, « Viens avec moi dans mon palais te restaurer. Ensuite je te ferai un cadeau. » Mais celui-ci répondit, « Même si tu me donnais la moitié de ton palais, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai rien et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu, car l'Éternel m'a donné l'ordre suivant. Tu ne prendras pas de nourriture, tu ne boiras pas d'eau en ce lieu et tu n'emprunteras pas à ton retour le même chemin que l'allée. » Donc nous lisons que l'homme est reparti donc par un autre chemin. Il n'a pas pris le même chemin pour retourner chez lui. Et nous lisons que Dieu exauce la prière. Et Jéroboam, il retrouve l'usage de sa main. Encore un miracle qui devrait faire fléchir le cœur de cet homme obstiné. Mais il n'y a aucun signe d'un retour vers Dieu. Aucune parole qui montre une repentance sincère, vraie. Jéroboam n'a qu'une pensée, juste retrouver l'usage de sa main, de son bras. Beaucoup plus loin dans le chapitre, verset 33, vous pouvez lire ces mots. Malgré ces avertissements, Jéroboam ne renonce pas à sa mauvaise conduite. Il continue sur sa lancée. Je vous assure que si la première partie de ce chapitre m'impressionne, la deuxième me laisse plutôt perplexe. Sauf erreur, je ne me rappelle pas avoir entendu une prédication sur la deuxième partie de ce chapitre. À Bethel se trouve un vieux prophète. Ses fils, tout impressionnés par ce qui s'est passé, rentrent à la maison pour raconter à leur père tout ce qui s'était passé. Et ce vieux prophète, il part à toute vitesse pour rattraper l'homme de Dieu sur le chemin de retour. Et voilà, il trouve l'homme de Dieu assis à l'ombre d'un grand arbre, en train de se reposer. Verset 14, il le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda, « Es-tu l'homme qui est venu de Juda ? C'est bien moi. » Alors il reprit, « Viens chez moi pour manger quelque chose. » Mais le Judéen répondit, « Je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu, et de ne pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. » Nous savons tous que, après avoir vécu de belles choses avec Dieu, des victoires, des réponses à la prière, l'ennemi n'est jamais loin. C'est souvent à ces moments précis qu'il vient avec force pour nous faire tomber. C'est le moment où nous baissons notre garde, nous sommes moins vigilants et l'ennemi sait comment en profiter. Je peux bien m'imaginer que cet homme était épuisé après tout ce qu'il avait vécu ce jour-là. Mais il avait bien retenu les consignes que Dieu lui avait données. C'était plus que des consignes, c'était des ordres. Dieu lui avait dit, tu ne mangeras ni ne boiras rien là-bas. On va continuer la lecture, verset 18. Mais le vieillard insiste, moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Le prophète Judas retourne avec lui à Bethel pour manger et boire de l'eau chez lui. Je me pose la question, pourquoi ce vieux prophète, pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Est-ce qu'il était tellement impressionné par tout ce qu'il avait entendu? L'autel qui s'est fendu et que cette main du roi qui s'est figée? Peut-être il voulait juste passer un bon moment avec cet homme de Dieu, entendre ces choses de sa bouche. Mais ce qui me frappe, ce sont ces mots. Il a menti. Wow. Le mensonge n'arrange jamais les choses. Il y a des chrétiens bien intentionnés aujourd'hui, un peu comme ce vieux prophète, mais il faut peser leurs conseils, les examiner à la lumière de la parole. Ce vieux prophète disait même qu'un ange lui avait parlé, mais il a menti. Il a menti. Nous ne sommes pas encore à la fin de nos surprises. Verset 20. Comme ils étaient tous deux à table, l'Éternel adresse la parole au vieux prophète qui l'avait ramené. Il s'adresse à l'homme de Dieu venu de Juda en disant, « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé chemin et tu as mangé et bu dans ce lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » Être enterré dans la tombe de ses ancêtres, c'était le désir de tout Israélite. Au moment de mourir, il fallait être entouré par la famille et enseveli dans le tombeau familial. À cause de sa désobéissance, le prophète se voit refuser cette consolation. Il va mourir loin des siens. Verset 23. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard sella l'âne du prophète qu'il avait revenir, et celui-ci repartit. En cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun d'un côté du corps. Ce qui est aussi étonnant, c'est ce cadavre au beau milieu du chemin, entouré par l'âne et le lion, comme si ces deux animaux se regardaient en face. C'est comme pour souligner que tout cela n'est pas arrivé au hasard. Donc le verset qui suit, nous lisons que le vieux prophète va chercher le corps pour l'enterrer dans sa propre tombe. Et il dit, après ma mort, vous m'enterrez moi aussi dans le tombeau où repose l'homme de Dieu. Vous attendez toujours le troisième mot, je vais vous le donner, c'est le mot cadre. Dans la mission que Dieu a donnée à ce jeune prophète, il a donné une sorte de cadre. Il avait des consignes à respecter. Plus que des consignes, c'était des ordres clairs, sans ambiguïté. Il fallait surtout ne pas manger et boire dans cette ville de Bethel. Je me pose la question, pourquoi un tel ordre? Je dois avouer que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe ici. Mais au fond de moi, je sais qu'il y a quelque chose qui m'échappe et peut-être je suis trop petit pour le saisir. Et en même temps, je me dis que se mettre à table avec un roi idolâtre qui vivait en plein désaccord avec ce que Dieu voulait, ce n'était pas la bonne chose à faire. Cet ordre que Dieu a donné, peut-être c'était finalement pour protéger son serviteur. Cet homme était le porte-parole de Dieu. Et en tant que tel, il était censé vivre pleinement en accord avec la volonté de Dieu. Jacques, dans sa lettre, nous avertit, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu ne doivent pas le faire à la légère. Pourtant, ce jugement peut nous sembler sévère. Ça me fait penser à Moïse, cet homme remarquable, ce géant de la foi que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et qui a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert. Il arrive à quelques pas du pays promis et il ne lui sera pas permis d'aller plus loin. À cause d'une faute, Dieu lui enlève ce privilège. Tout ça peut nous sembler sévère et peut-être nous ne sommes pas assez grands pour comprendre tout cela. Mais une chose, je suis convaincu que ces hommes n'ont pas perdu leur récompense. 1 Corinthiens 10 nous dit que ces choses sont écrites pour nous avertir, pour que nous ne commettions pas les mêmes erreurs. Le Dieu créateur nous a donné des consignes claires dans sa parole, une sorte de cadre qu'il faut respecter. Un cadre que Dieu nous a donné pour notre bonheur, pour nous protéger, dans laquelle il faut travailler, agir. Comme cet homme, dans ce chapitre, nous sommes censés respecter ce cadre. Quand j'étais jeune, je voulais vivre ma vie. C'est moi qui allais désormais prendre les décisions. Mais combien je remercie Dieu aujourd'hui parce qu'il m'a tendu la main. Et dans sa grâce, il a remis ce cadre en place. Ne nous y trompons pas, ce cadre, c'est synonyme de sécurité, d'épanouissement, de vraie liberté. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je suis bien capable de sortir de ce cadre, de me retrouver à l'extérieur. Et pas seulement moi, mais vous aussi. Et si je sors de ce cadre, c'est comme cet homme dont il est question ici, je me mets en danger. Pour cet homme, le feu avait viré au rouge. Quand je roule en voiture, je suis tenu de respecter le code de la route. Même si je suis britannique, je dois rouler à droite, bien que ce soit le contraire dans mon pays. Je ne peux pas faire n'importe quoi, sinon je mets ma vie et la vie des autres en danger. C'est pareil avec ce cadre que Dieu nous a donné. C'est pour nous protéger, pour nous guider. Nous savons que les enfants ont tous besoin d'un cadre. Ils vont tester pour savoir où sont les limites, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ce cadre les rassure. Ça donne un sentiment de sécurité. Vous savez, j'aime beaucoup les études bibliques à l'église et je trouve que l'évangile de Matthieu est très profond. Et ce mois-ci, nous allons trouver, nous trouvons ce cadre dont on parle ici. Jésus a dit dans ce cadre, il y a deux choses qui sont essentielles, notre amour pour Dieu et notre amour pour le prochain. Et ce qui m'a frappé l'autre soir, c'est ces paroles de Jésus. Jésus dit, je ne suis pas venu pour supprimer la loi, mais pour lui donner tout son sens. Et Jésus dit que ce n'est pas uniquement nos actions, nos paroles, ce qui est visible, c'est aussi ce qui est invisible, c'est tout ce qui se passe dans nos cœurs. C'est pourquoi j'avais mis ces paroles dans le Quoi de neuf. Nous avons abordé plusieurs thèmes, je crois que c'était 2017-2018, plusieurs thèmes de société. On a parlé de qui on est, qui suis-je. On a parlé aussi des hommes et des femmes, bien vivre ensemble. Et j'avais voulu vraiment approfondir un petit peu ces thèmes, mais je n'ai pas pris le temps. Qui suis-je réellement? Est-ce que je suis là par hasard et par conséquent ma vie sur terre n'a vraiment pas de sens? Ou alors est-ce que c'est Dieu qui m'a créé, qui m'a donné la vie? Dans ce cas, est-ce que je ne dois pas un jour me tenir devant lui et rendre compte de cette vie qu'il m'a donnée et de tout ce que j'ai fait sur la terre? Je pense que la deuxième étude qu'on a faite sur les hommes et les femmes, bien vivre ensemble, ça correspond tout à fait à ce cadre dont je parle aujourd'hui. Ce cadre que je dois respecter si je veux m'épanouir, être heureux sur la terre. Non, je ne suis pas un de ces électrons libres. Je ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. La parole de Dieu est claire. Le cadre est là, un ordre moral que Dieu a établi. Et en plus, Dieu nous a donné une sorte de GPS dans nos cœurs. Que quand nous sortons de ce cadre, il y a une voix qui nous dit « Faites demi-tour dès que possible. » Cette voix qui est là, qui parle. Ça, c'est rien de nouveau parce que le jardin d'Éden, c'était la même chose, n'est-ce pas? Il y avait ce cadre magnifique. Il y avait seulement deux arbres qu'il ne fallait pas toucher, manger. Et voilà, une voix qui vient semer la doute. Est-ce que je ne peux pas manger le fruit de cet arbre? Est-ce que je ne peux pas décider, moi? Je sais, aujourd'hui, à l'extérieur de ce cadre, il y a des choses qui attirent mon attention, des voix qui se font entendre, des lumières éblouissantes. On nous promet monts et merveilles, mais ne nous trompons pas. Dieu a fait de nous des êtres responsables. Il nous a donné de belles choses avec beaucoup de liberté. Mais une fois que je sors de ce cadre, au lieu de devenir libre, je deviens esclave et je suis sur une pente glissante. Heureusement que Dieu est là, il nous tend toujours la main. Il a fait pour Jéroboam. Il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière sur ses pas. Si aujourd'hui nous savons qu'il y a des choses dans notre vie qui ne rentrent pas dans ce cadre que Dieu nous a donné, faisons marche arrière. Ne restons pas là où tout risque de basculer. Revenons à celui qui est la source de la vie, qui nous appelle à marcher à sa lumière. Je vais terminer juste avec une dernière chose. Nous sommes très contents d'avoir ces nouveaux locaux. Je ne m'imaginais pas que le résultat sera aussi beau. Merci Seigneur, nous arrivons doucement à la fin des travaux. Une nouvelle étape commence. La question que nous nous sommes déjà posée avant les travaux revient avec force. À quoi va réellement servir ce lieu, ce bâtiment? Allons-nous nous contenter de venir chaque dimanche juste pour l'admirer? Je suis sûr que notre prière à tous, c'est que ce lieu soit une bénédiction pour notre quartier, pour notre ville de Mulhouse, un lieu où les personnes trouvent un accueil, où des vies brisées sont restaurées par la grâce de Dieu, un lieu où les gens auront envie de venir pour se ressourcer, découvrir la paix, le pardon que Christ nous offre. Voilà, il va nous falloir une bonne dose de courage pour nous mobiliser, pour passer à l'action. Et cela risque de nous coûter quelque chose. Suis-je prêt? Sommes-nous prêts? Il va falloir nous lever pour le combat, nous mettre du côté de la vérité, oser encore aller plus loin, oser aller à la rencontre des personnes qui nous entourent, leur apporter leur amitié, notre amitié. Et si nous voulons être efficaces, si nous voulons que cette église, que la lumière brille, il faut que nous respections ce cadre que Dieu nous a donné. Restez alignés sur ce que Dieu veut, sur sa parole. Il faut refuser tout ce qui nous empêche d'avancer pour que cette église puisse avoir un vrai témoignage dans cette ville de Mulhouse. Voilà, bonne semaine à vous tous.